Vendredi, on fait toujours jouer du Air Supply pour Philippe Quentin. Ça lui rappelle sa jeunesse. Ouais. Le groupe, c'est Air Supply, qui vendait beaucoup de micro-sillons en 51. très populaire parmi les aînés.
Je viens de compléter le tour du chapeau. Nana Mouskouri et Julien Clerc en ouverture d'émission, et là, Air Supply. C'est que son disant, il n'est même pas 15h30.
Puis écoute, on va finir avec
Ça me rappelle les trois buts de Jean Béliveau en 44 secondes.
En 51. T'étais là au Colisée.
Un petit peu plus tard.
OK, parfait. OK, Philippe, quelques nouvelles du sport. Mais juste avertir les gens, on a parlé de mix-up de vin tantôt avec Jessica. Et à la fin de ta chronique, Catherine va raconter son propre imbroglio quand il y a du vin qui a été mêlé.
J'en ai profité quand même. Ouais.
OK, match de NFL hier soir, puis il y a eu, disons, un moment cocasse.
Oui, un moment très cocasse. Et là, les gens qui nous écoutent, il faut faire un effort d'imagination. Imaginez-vous, là, c'est le match entre les Giants de New York et les Eagles de Philadelphie. Et là, les Giants ont leur ballon à leur propre ligne de 12. Donc, il faut qu'ils, pour aller marquer un toucher, il faut qu'ils réussissent à traverser tout le terrain. Et là, le corps arrière des Giants de New York, Daniel Jones, il reçoit le ballon de son centre, puis là, il regarde pour une passe, puis il trouve personne. Puis tout à coup, oups, il y a une ouverture dans la ligne. Mais l'ouverture est béante, il peut se rendre jusqu'à l'autre bout, puis aller marquer un toucher.
Il n'y a personne.
Alors, il part. Puis là, il se met à courir. Puis c'est sûr qu'il va faire un toucher. Mais écoutez ce qui va arriver. Voici Joe Buck et Troy Aikman de Fox News. From the 12, Jones keeps, gets a block, takes off, and he is gone. Trying to stay upright, and he trips. Absolutely all alone, and he trips. Alors,
il était seul et il s'enferme.
C'est ça, il est tout seul, il n'y a personne. Il vient de courir à peu près 50 verges, mais il en reste une vingtaine. Il n'y a personne autour de lui, aucun adversaire. Et puis, il s'est comme enfargé, puis il est tombé, puis il a été plaqué. Il ne s'est jamais rendu à la zone début.
J'ai vu la séquence, Philippe.
C'est
là,
très drôle.
Et, écoute, on se sent mal pour lui. Ouais. Est-ce que l'équipe a réussi à faire un toucher
après? Oui, l'équipe a réussi à faire un toucher après. Puis ce qu'on a appris par la suite, là, il y a eu des études qui ont été faites, la vitesse qu'il a atteinte quand il courait, c'était le plus rapide dans la Ligue nationale de football depuis 3 ans par un quart arrière. Wow. Alors quand même, il allait très vite pour un quart arrière, mais il n'a pas été capable de se tenir debout sur ses jambes. Si vous avez une chance, si vous ne l'avez pas vu, là, vous avez une chance d'aller voir ça sur les réseaux sociaux. Amusez-vous, bien sûr. J'ai dit que c'était sur Fox News. Bien sûr, c'est Fox Sports. Fox News diffusait le débat, mais on parle tellement de Fox News ces temps-ci avec la campagne américaine que la langue m'a fourchu.
OK, il y a du baseball en fin de semaine, les séries mondiales qui se poursuivent.
Oui, tout à fait. 3 matchs, la série est 1-1 entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles. Donc, 3 matchs ce soir, samedi soir, dimanche soir.
OK, je veux qu'on parle, Philippe, de la chronique de Mario Dumont dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Mario écrit que la vente des Nordiques, on sait que les Nordiques ont été vendus, là, je pense que c'est
en
l'été 1995.
Mai 1995.
Printemps 1995. Et le référendum, évidemment, survient le 30 octobre 1995. Et la thèse de Mario, c'est que ce qui a perdu le référendum, là, parce que lui était dans le camp du oui, évidemment, là, par 50 000 voix, c'est la vente des Nordiques.
Oui, parce que souvenons-nous, au référendum, les résultats dans la région de Québec avaient été très décevants pour le camp du oui. Hein. Le Québec serait devenu la capitale d'un pays. On s'attendait, du côté du oui, à un fort appui de la population de Québec, puis c'est pas ça qui s'est produit. Les résultats ont été décevants, notamment dans des comtés qui étaient détenus par des députés péquistes. Là. Je me souviens, Charlebourg, ça avait été décevant. Louis Hébert, ça avait été décevant. Et là, aujourd'hui, Mario Dumont, il va avec cette thèse qui est super intéressante, puis qui se défend extrêmement bien là, en disant, écoutez, si les Nordiques étaient restés à Québec, la fierté des gens de Québec serait demeurée. Là, on n'aurait pas eu ce terrible uppercut du départ des Nordiques, puis probablement qu'il y a 50 000 personnes de plus qui auraient voté pour le oui, ou 25 000, en tout cas suffisamment pour faire balancer le résultat du référendum. C'est une théorie qui est très séduisante, puis je peux te dire, Patrick, que c'est pas la première fois qu'on l'entend. Elle a déjà été énoncée par d'autres analystes politiques aussi qui croient ça, puis c'est plein de bon sens. Moi, j'ai des réserves.
Toi, tu étais reporter à l'Assemblée nationale.
Oui, j'étais correspondant à l'Assemblée nationale à Québec à cette époque-là, et j'ai beaucoup, beaucoup couvert ce dossier-là avec mon ami et collègue Denis Lessard. Et donc, on était vraiment quand même assez bien renseignés parce qu'on parlait avec beaucoup, beaucoup de gens. Et pourquoi je trouve que c'est un petit peu excessif, cette théorie-là, qui fait que, bon, si l'Indique était resté à Québec, le oui aurait passé, c'est que, notamment, le maire de Québec, qui était certainement un ami des souverainistes, Jean-Paul Lallier, était probablement le plus grand opposant à l'aide financière aux Nordiques. T'sais, lui, les demandes de Marcel Aubu, il les trouvait excessives. Il disait, je me souviens une fois, je l'avais interviewé dans son bureau, il dit, bon, je veux bien là, qu'un homme d'affaires soit dynamique, mais s'il veut m'arracher le bras sans anesthésie, tout à coup, ça va pas. Et le gouvernement du Québec aussi avait dit, par l'entremise du chef de cabinet de Jacques Parizeau, Jean Royer, avait dit, écoutez, ce que les Nordiques nous demandent, là, c'était, ils nous demandaient un casino à Québec dont tous les profits seraient allés au Nordique. Il disait, ce qu'il nous demande, c'est une pompe branchée sur le fonds consolidé de la province. Alors, on fera pas ça. Et je pense qu'au fil du temps, on a réalisé que le mystère Québec, puis ça a été appelé de même dans une étude qui a été faite par le Bloc québécois quelques années après une élection fédérale où ils avaient été très déçus des résultats. Ça, c'était après le référendum. Ils ont fait faire une étude, le Bloc québécois. Pourquoi ça fonctionne pas à Québec? Ils ont appelé ça le mystère Québec. Ils évoquaient notamment cette idée-là, mais ils s'apercevaient que le problème était plus profond. Puis on le voit encore aujourd'hui comment Québec, par rapport à l'ensemble du Québec...
C'est un microcosme.
Exactement, exactement. Ouais. Alors moi, de dire qu'ils auraient absolument, presque certainement approuvé le référendum si les Nordiques étaient restés, je pense que ça fait un petit peu abstraction d'une réalité politique un peu différente à Québec et aussi du discours qui était en place. Je rappelle aussi que les sondages d'opinion auprès des gens de la ville de Québec étaient contre l'aide que demandaient les Nordiques de manière majoritaire. Les gens trouvaient ça excessif.